de la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
De la puce à l'oreille.
C'est l'été. Les criquets et sauterelles stridulent. Nous nous émerveillons devant les ondulations des champs de céréales sous le vent, ponctuées çà et là de taches de couleurs vives, rouges, bleues. De la puce à l'oreille vous invite aujourd'hui à la découverte des plantes messicoles, du latin messi, qui veut dire moisson, et col, habitat. Si les plus connues et emblématiques de ces plantes compagnes des moissons sont les coquelicots et les bleuets, c'est qu'elles ont été source d'inspiration des peintres et des poètes. Mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse le soin à Laura Lanuzel du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et du Midi-Pyrénées de vous les présenter, ainsi que le programme Messiflore qui leur est dédié.
Bonjour, c'est quoi ton travail ?
Alors, je m'appelle Laura Lanuzel et je travaille pour le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et du Midi-Pyrénées. Et je suis animatrice donc d'un programme de conservation de la flore messicole.
C'est quoi une plante messicole ?
Alors messicole, c'est un terme qui désigne un groupe de plantes. Et leur caractère commun, c'est vraiment le fait d'être habitante des moissons. C'est comme ça qu'on les appelle aussi de manière plus simple. Alors, en France, on compte une liste de 102 espèces de plantes messicoles qui a été définie par des experts et les conservatoires botaniques. Donc, les coquelicots ou les bleuets font partie de ce groupe des plantes messicoles qu'on retrouve dans les champs.
On les trouve dans quel champ ?
C'est toutes des plantes qu'on va retrouver exclusivement dans les cultures d'hiver. Donc, majoritairement dans les cultures de céréales, ou de moutarde aussi, parfois. Et dans les certaines cultures sarclées, donc c'est-à-dire qui vont recevoir un travail du sol, comme la vigne ou les vergers.
Il y en a qui sont jolies, alors ?
Et effectivement, il y en a beaucoup des jolies. C'est toutes des plantes à fleurs.
Est-ce que tu peux m'en présenter quelques-unes ?
Je peux vous donner l'exemple du miroir de Vénus, qui est une petite plante de 10 à 40 cm. Donc ses feuilles, elles sont un peu ovales allongées. Finalement, sa principale caractéristique, ça va être sa belle fleur violette, qui lui a donné son prénom, puisqu'on l'appelle miroir de Vénus, en lien avec la déesse de la beauté, Vénus. C'est un exemple parmi ces 102 espèces. On peut aussi retrouver les pieds d'alouette, qu'on va aussi voir dans les champs grâce à leurs fleurs qui sont bleues ou du bleu au violet, avec un éperon. Donc elles vont dépasser des champs de blé. C'est leur couleur qui va permettre de les reconnaître et leur forme de fleurs avec un bec. De la même manière, je parlais des coquelicots et des bleuets. C'est pareil, ils vont illuminer les champs de blé. C'est comme ça qu'on les reconnaît, grâce à leur fleur rouge pour les coquelicots ou bleu pour le bleuet, qui lui a aussi valu son nom français de bleuet.
Mais les fleurs messicoles, elles sont toutes associées à des déesses ?
Elles sont pas toutes associées à des déesses, mais il y en a plusieurs qui ont des histoires, qui sont liées à des histoires de la mythologie ou à des déesses. Donc c'est aussi le cas de l'adonis, qui est une petite plante à fleurs rouges écarlates. Vous n'aurez pas de difficulté à repérer l'adonis grâce à ses pétales donc qui sont en couleur rouge sang, alors qu'ils sont très délicats, mais qui ont une couleur qu'on voit de très loin. Et il faudra vous approcher ensuite pour observer leurs feuilles très découpées. Que son nom vient de la mythologie et de l'histoire entre Aphrodite et Adonis. Donc leur histoire d'amour qui s'est terminée par la mort d'Adonis et la perte de son sang qui rappelle la couleur de cette fleur d'Adonis.
Mais à quoi elles servent ces plantes ? Elles se mangent ?
Certaines se mangent. Donc c'est le cas par exemple pour la mâche. Donc actuellement, on connaît la variété cultivée qu'on retrouve dans nos assiettes, mais anciennement, on allait la chercher dans les champs. Elle fait partie des plantes messicoles et elle est mangée comme une salade sauvage. Il y a aussi le Bunium bulbocastanum, qui est une plante mycicole avec une noix dans la terre qui peut être consommée. Ces plantes, elles offrent aussi abri et nourriture aux insectes, et notamment les insectes pollinisateurs. Elles sont aussi esthétiques, c'est-à-dire qu'elles participent à l'esthétique de nos paysages. On a tous cette image de champs fleuris qui est reprise aussi par les artistes peintres dans les peintures des peintres impressionnistes comme Claude Monet ou Vincent Van Gogh, qui représentent souvent les bleuets et les coquelicots, justement. Et ces fleurs aussi, on les appelle aussi fleurs du souvenir. Elles sont entrées dans la mémoire collective parce que les principales fleurs des champs, donc le bleuet, le coquelicot et l'anthémis, qui sont bleues, blanc, rouge, ont été aussi reprises. Alors selon la légende ou dans la réalité, on ne sait pas, mais pour les couleurs du drapeau français.
On n'en voit plus beaucoup On n'en voit plus beaucoup des coquelicots.
Effectivement, ces espèces de plantes mycicoles, elles sont menacées par l'évolution de l'agriculture, puisque leur habitat, c'est les champs de blé, donc toutes les pratiques agricoles, elles peuvent avoir un impact sur ces plantes. Donc l'utilisation des herbicides en masse va faire qu'elles disparaissent dans leur habitat. Et donc effectivement, il est plus difficile maintenant de les observer.
Pourquoi tu t'en occupes ?
On travaille sur ce groupe de plantes mycicoles parce qu'il est extrêmement menacé. Donc, suite à une récente évaluation, on considère qu'une plante mycicole sur 5 est menacée de disparition. L'objectif premier, c'est déjà qu'elles ne disparaissent pas. Et le second objectif, c'est de conserver les services qu'elles nous rendent. Donc, tout à l'heure, j'expliquais que certaines, elles étaient comestibles. Elles sont aussi nourricières pour les insectes pollinisateurs, et donc c'est important de les conserver dans les champs agricoles pour qu'elles servent aussi de nourriture et de support aux pollinisateurs qui vont ensuite aller polliniser les cultures qu'on mange. Donc c'est important de les préserver pour ne pas perdre aussi tous les services qu'elles peuvent nous rendre.
Comment tu t'y prends pour les protéger ?
La menace sur les plantes mycicoles, elle est liée à l'évolution de l'activité agricole. L'utilisation d'herbicides va détruire directement la plante, donc pour pouvoir les préserver, il faudrait réduire, voire arrêter l'utilisation d'herbicides. La spécialisation aussi des territoires, c'est-à-dire qu'elles poussent dans les champs de céréales, donc s'il n'y a pas de champs de céréales sur le territoire, elles n'auront pas d'habitat non plus. Donc c'est des plantes qui ont besoin de l'activité agricole pour survivre, et d'un autre côté, il faut que cette activité agricole ait des pratiques favorables pour qu'elles puissent se maintenir dans les champs. Du coup, pour les préserver, effectivement, je vais rencontrer les agriculteurs. C'est les premiers concernés par la protection des plantes mycicoles, donc on va les rencontrer. La première mission pour conserver les plantes mycicoles, c'est de les faire connaître, parce que généralement, les agriculteurs n'ont pas connaissance de ces plantes dans leurs champs et donc se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir dessus. Ensuite, on fait des tests pour connaître les pratiques qui sont favorables à ces plantes ou celles qui sont défavorables, pour ensuite conseiller les agriculteurs qui ont des plantes mycicoles dans leurs champs et qui voudraient les préserver.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot, C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, y avait trois gouttes de sang qui faisait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille, aujourd'hui en compagnie de Laura Lanuzel, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui vous parle du programme Messiflore et des plantes messicoles.
Donc la préservation des plantes messicoles, elle s'appuie sur plusieurs choses. La conservation de leurs graines, ça permet que si elles disparaissent, on ait un lot de graines pour pouvoir éventuellement les multiplier et les réimplanter. Ensuite, la préservation dans le champ. Donc là, on ira rencontrer les agriculteurs et favoriser les pratiques qui leur sont favorables. Et en dernier lieu, il y a la réintroduction quand elles ont quasiment disparu. Et la sensibilisation finalement de tous les acteurs en milieu rural, parce que même si les agriculteurs sont les principaux acteurs, tout un chacun peut avoir une action pour la protection des plantes messicoles. Ce travail, on le fait avec les associations naturalistes qu'il y a sur le territoire de Midi-Pyrénées. Donc c'est un travail de réseau, parce qu'avant de pouvoir les protéger, il faut aussi savoir où est-ce qu'elles sont et les connaître, et ensuite les protéger.
Ça pose problème aux agriculteurs si elles sont au milieu des champs?
D'après des expériences de terrain et des enquêtes, souvent les agriculteurs ne connaissent pas les plantes messicoles. Et quand on leur explique la valeur finalement patrimoniale et les services que peuvent rendre les plantes messicoles, généralement ils sont plutôt favorables aux actions de protection. C'est pour ça que dans un premier temps, il faut leur faire connaître en fait. Et une fois qu'ils les connaissent, elles sont mieux acceptées dans les champs. D'autant plus que, tant qu'il n'y a pas beaucoup d'individus dans le champ, elles n'ont pas d'impact sur les cultures. C'est des espèces qui sont très peu concurrentielles par rapport à la culture. C'est des petites plantes qui ne vont pas déranger la céréale pour pousser. Et quand il aura connaissance des services que ça peut lui rendre, elles seront acceptées par l'agriculteur. Elles peuvent lui être utiles pour faire venir les pollinisateurs dans la parcelle. Vu qu'elles vont attirer les pollinisateurs et les nourrir, ça va ramener les pollinisateurs dans les cultures et donc ils vont aussi polliniser la culture. Et puis elles sont aussi support d'insectes auxiliaires, c'est-à-dire que c'est des insectes qui vont aller manger d'autres insectes qui sont nuisibles pour la culture. Donc c'est l'exemple du bifora rayonnant, c'est une plante messicole qui va abriter et nourrir les larves du cirf. La larve du cirf va consommer les pucerons, donc ça va aider l'agriculteur finalement à combattre les pucerons qui peuvent être problématiques dans sa culture.
Bon, finalement ça leur rend service. Comment ils doivent faire pour les préserver ?
Les agriculteurs, pour conserver des plantes messicoles, il faut qu'ils adaptent leurs pratiques. Donc c'est la réduction, voire l'arrêt de l'utilisation d'herbicides, parce que l'herbicide va détruire les plantes messicoles directement. La réduction aussi de la profondeur du travail du sol. Les plantes messicoles, elles ont des petites graines qui germent en surface du sol, donc si on les enfouit trop profondément, elles ne seront pas capables de se développer. Donc avec un travail du sol superficiel, on leur permet de germer. Avec un travail trop profond, elles ne seront pas capables de germer. La réduction de l'apport d'azote, c'est aussi une autre mesure, parce que ce sont des plantes qui aiment les sols pauvres et calcaires, donc quand on apporte trop de matière organique, ça change la composition du sol et ça va devenir défavorable pour ces plantes. Pour certaines plantes messicoles, leur floraison et leur production de graines, elle va être faite tardivement, plutôt fin juillet, début août. Donc le retard de la fauche des céréales va leur permettre d'aller jusqu'à la graine et de pouvoir se multiplier. Si on coupe trop tôt les céréales aussi, elles ne pourront pas aller jusqu'au bout de leur cycle et donc ça peut les mettre en danger.
Est-ce que nous aussi on peut participer ? Est-ce qu'on peut compter les messicoles ?
Tu peux aller te rapprocher de l'ANACEN Ariège, qui est une association qui participe à la prospection des plantes messicoles, ou participer à l'Observatoire des plantes messicoles. Donc Tela Botanica a développé un outil qui permet à chacun d'apprendre à reconnaître les plantes messicoles et envoyer sa donnée. Et donc ces données que collecte Tela Botanica, elles reviennent aussi au conservatoire botanique. On peut apprendre à les reconnaître grâce à cet outil ou en rejoignant les associations du territoire. En Midi-Pyrénées, le Conservatoire botanique travaille avec l'ANACEN Ariège, Nature en Occitanie, la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne, la DASDEA 32, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Messiflore, donc qui vise à la protection de ces plantes messicoles. Donc tu peux te rapprocher de ce réseau. Et au niveau national, il existe un plan national d'action pour la protection des plantes messicoles. Donc on peut aussi se rapprocher de d'autres acteurs au niveau national.
L'émission touche à sa fin. Un grand merci à Laura Lanuzel pour toutes ces précisions. Un grand merci aussi à Alizéa, Isaac et Noran pour leurs questions. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre la chanson « Comme un petit coquelicot » de et par Mouloudji. Sachez que vous pouvez retrouver les détails de ce programme Messiflore sur le site internet de l'ANA Conservatoire d'Espaces Naturels Ariège, ainsi que l'ensemble des détails des sorties et événements à la découverte du patrimoine naturel de notre département. C'était une émission proposée par l'ANA Conservatoire d'Espaces Naturels Ariège, réalisée par Carole Erskovici. Je vous rappelle que les émissions de La Puce à l'oreille sont écoutables et téléchargeables depuis le site internet de l'ANA, www.ariegenature.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt.